ce mardi matin sur LRFM 93.1. Et c'est avec joie que nous reprenons nos émissions pour une nouvelle saison de La vie est un roman. Et nous espérons que cette émission de ce matin sera une émission d'anthologie. Nous recevons Lola Gruber qui vient de publier un livre chez Christian Bourgois, éditeur. Livre qui est paru il y a 15 jours et dont le titre... excusez-moi si je me suis trompé, mais vous allez le dire, dont le titre est Elisabeth Lima. Donc bonjour Lola Gruber.
Bonjour Yves Thoré.
Et donc vous me dites que ce n'était pas il y a 15 jours.
Mais non, c'était il y a même pas une semaine.
Une semaine, donc c'est tout frais, tout neuf.
Comme un œuf.
Oui. Et donc ce livre raconte l'écriture d'un best-seller.
Ouais. C'est l'histoire de trois amis qui travaillent tous d'une façon ou d'une autre dans les milieux de l'édition. Et puis, suite à un repas un peu arrosé, une déception parce qu'ils ont vu un prix littéraire pour lequel ils ont beaucoup d'estime être remis à un livre que ils ne voient pas pourquoi ça serait primé cette affaire. Il y en a un des trois, évidemment c'est l'éditeur qui dit « mais... c'est pas très difficile d'écrire un best-seller si on voulait s'y mettre, nous, tous les trois. Oh là là, on ferait un de ces trucs. » Et la blague de fin de repas va devenir quelque chose de très, très, très sérieux, en fait.
Et donc, ils vont s'atteler à l'écriture de ce best-seller. Et donc, maintenant, donc, puisque ça parle de l'écriture d'un best-seller, il faut que vous ayez un plan marketing assez poussé.
Il faut quand même un livre avant le plan marketing, même s'ils élaborent un peu les deux en même temps. Il y a des recettes, mais c'est même pas mal qu'il y en ait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font rire, il y a des choses qui font pleurer. Moi, je suis cliente très volontiers d'un bon mélo. Hein. Je crache pas du tout là-dessus. Simplement, je vois très bien quels sont les ressorts éternels qui vont faire que ça va me donner des émotions ou pas. Après, alors eux, ils décident de raconter l'histoire d'une aviatrice des années folles. Donc, il y aura du suspense, puis on pourra parler de féminisme, parce que c'est une femme dans un monde d'hommes. Il y aura des avancées, des aventures. On va mettre des gens un peu connus dedans. Enfin, voilà.
Et donc, dans cette question du best-seller, je me suis posé la question de ce... Bon, j'en ai lu... assez peu, mais c'est une question qui m'a toujours beaucoup passionné et intrigué. Alors, j'avais lu Elena Ferrante que vous citez à la fin.
Parce qu'ils décident d'écrire ce truc, puis ils décident d'écrire ce roman sous un pseudonyme et de se cacher sous l'identité d'une écrivaine mystérieuse et fictive. Et évidemment... on peut penser, parce que aussi je clignote un petit peu dans ce sens à Elena Ferrante. Elena Ferrante, moi, j'ai aimé les bouquins, je les ai lus, je les ai aimés. Et je ne m'intéresse pas du tout à la question de savoir qui est Elena Ferrante. Ce que je trouve intéressant, c'est que des gens se passionnent pour cette question, ramenant à une autre question tout aussi passionnante qui est, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'auteur en fait ? Pourquoi est-ce que l'auteur est important ?
Ouais, je ne voudrais pas brûler les étapes, enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue, mais c'est bien parce que ça m'a forcé à penser mon rapport à la littérature, je n'y avais jamais pensé. Et pour moi, il n'y a que l'auteur qui compte, l'œuvre ne compte pas. C'est-à-dire que si je pense à Kafka, Joss, Walser, par exemple, j'ai lu un livre sur les correspondances des amitiés, entre artistes ou entre scientifiques, c'est un livre qui parle de leur correspondance. Et il y a une lettre de Robert Walser à son ami, une amie à lui qui travaille dans un hôpital. Et c'était tellement émouvant pour moi, cette lettre. Toute l'œuvre, tout Walser est dans la lettre.
Mais je remarque que c'est des auteurs qui sont morts très jeunes. Hein, les Walser, Kafka, ils sont morts jeunes. Donc il y a aussi peut-être un besoin d'avoir plus de la personne parce qu'il y a peu d'œuvres compte tenu de du moment où ils sont morts.
Joss, par exemple, c'est construit, enfin, c'est le sacrifice à l'œuvre. Mais je pense que c'est une mauvaise piste, en fait, là-dedans. La question, ce n'est pas le best-seller, c'est l'auteur de best-seller. Là, je, oui. quand je me posais cette question, je me disais qu'au collège, déjà, l'auteur de best-seller devait déjà trafiquer des crayons de couleur ou quelque chose. C'est la nature de l'auteur de best-seller qui fait le best-seller, pour moi, que le contraire.
Cette histoire de Ferrante, parce que j'ai quand même été poser quelques questions, j'avais parlé à une femme de lettres italienne qui m'avait dit un truc assez intéressant. Elle m'avait dit... C'est avant l'immense succès de Ferrante, mais c'était déjà un grand succès. C'était pas encore le succès planétaire que c'est devenu. Elle me dit, le milieu des lettres en Italie est minuscule. Tout le monde sait qui c'est. Mais nous, en Italie, tu sais, m'avait-elle dit, on est plaisantins. On aime les scherzi. C'est une blague que tout le monde connaît. Et on joue, quoi. Là où je trouve que cette histoire, c'est un peu compliqué, c'est que moi, j'avais lu un truc, une lettre de Ferrante qui disait « Je n'apparaîtrai pas. Si mon livre doit trouver son public, il le trouvera. Je ne veux pas vivre une vie publique, etc. etc. » Là, la femme de lettres italienne me dit « Ouais, en fait, c'est une histoire qui a été... vraiment monté de toutes pièces. Ils se sont assurés que le livre soit traduit en anglais en même temps que la parution en Italie. C'est des vieux routiers de l'édition qu'on fait ça. Là, on parle d'autre chose qui est une usurpation de la pureté. Et ça, là, je trouve que c'est autre chose que dans la blague. Mais il y a une blague, par contre, qui a été pour moi l'élément déclencheur de l'envie d'écrire ce livre. C'est en Espagne. T'as entendu parler, Yves Tanré, de Carmen Mola?
Non, pas du tout.
Alors, Carmen Mola écrivait des polars un peu trash. Et elle est prof de maths, je crois, dans un collège madrilène. Et dit, j'ai pas envie d'apparaître en public parce que j'écris des choses qui sont un peu violentes, un peu trash. J'ai une famille, j'ai des élèves. J'ai pas envie que mon succès ou mon échec implique ni mon boulot ni ma famille, donc j'apparais pas en public, j'ai quelques raisons à ça. Très bien, les bouquins de Carmen Mola sont un immense succès, et telle enseigne qu'elle reçoit le prix Planeta, qui quand même, c'est 1 million d'euros le prix Planeta, ouais, c'est le plus doté d'Europe, je crois. Et donc, alors là, il faudrait quand même bien qu'elle vienne le chercher, Carmen, sauf qu'ils ont vu se pointer 3 mecs.
Ah, la classe.
Ouais, qui sont des scénaristes de télé, qui écrivent des polars, qui ont dit, mais de façon vraiment charmante et décontractée, on pensait pas que ça irait si loin, désolé, c'est nous. Et tout ça avec une décontraction et une simplicité très espagnole qui n'atteint pas Je veux dire, Ferrante, après la blague, c'est quand même allé assez loin. C'est-à-dire que des journalistes se sont procurés illégalement les feuilles d'imposition de l'auteur qu'on soupçonnait d'être... je veux dire, c'est un assez sale truc dans un pays où il y a d'autres choses qui méritent des enquêtes, comme la mafia, où on ne va pas chercher les feuilles d'impôt, là, tout à coup. Donc, pourquoi faire sortir de sa tanière quelqu'un qui veut y être? Par contre, Carmen Mola, j'ai trouvé que c'était assez décontracté, quoi. Donc... Attends, je finis sur Carmen Mola, parce qu'il y a un truc qui va à contre-courant, ou dans le courant, je ne sais plus, de nos théories respectives sur la personne de l'auteur. Il y a quand même quelques librairies féministes qui ont renvoyé rageusement le bouquin en disant « On ne vend que des livres de femmes, on rend nos Carmen Mola ». Mais est-ce que c'est si important? Est-ce que ça change quelque chose? Et si oui, ça change quoi?
Ce qui est difficile à interroger, c'est le rapport du best-seller par rapport à la littérature. Mais donc, juste en passant, il y a la femme de ménage, là. Vous êtes au courant?
Oui, je suis au courant. Si on prend le métro, on est au courant.
Ah, c'est affiché dans le métro?
Non, mais il y a beaucoup de gens qui le lisent dans le métro. Ouais.
C'est quand même bien, quoi. Ça doit faire envie. Votre livre doit faire envie parce qu'il y a une vraie réflexion. C'est quelque chose qui existe, quoi, qui travaille tout le temps.
Il y a quelque chose qui est encore plus dingue que le best-seller, c'est que quand on lit vaguement des gazettes littéraires, et même au-delà, arrive de temps en temps un objet qui est encore plus bizarre qu'un best-seller, c'est le livre n'est pas encore paru, mais les droits ont été vendus dans 50 pays, et ce best-seller, mais attends, best-seller, il n'est pas paru, le truc. Donc c'est déjà un best-seller avant même d'avoir été vendu, ce qui est assez dingue quand même.
Donc on a une table de poker là, dans un truc, on peut bluffer, on peut tenter le coup, voir on avance, on recule.
Vous bluffez différemment quand vous avez un plan de com, par exemple. Oui, si, mettons, alors il y a un buzz comme ça dans une des foires aux livres, puis un tel dit, ah, moi j'ai un truc, les Japonais on s'en fout, et puis c'est déjà traduit dans 3 langues. Alors là, l'éditeur espagnol dit, ah, ça peut m'intéresser, mais alors l'agent a toute part belle pour lui dire, bah, vous proposez quoi ? Les autres, ils font un plan de com avec de l'affichage, etc. Alors forcément, un livre qu'on sort avec une grosse campagne d'affichage, il est déjà mieux barré qu'un autre. C'est pas comme si bien c'était sûr, pas contingent. Sûr. Alors où est le texte là-dedans ? On peut se dire, ce texte a tout pour plaire, ce texte sort aux États-Unis, ça c'est le gros truc. Ah, je sais pas.
Bon, pour ma génération, il y a Salinger, bien sûr. Mais ça, je pensais, parce que vous avez parlé de la presse qui traque l'auteur et l'attrape-cœur, mais l'attrape-cœur avait quelque chose... ça affirme ma théorie sur le livre et l'auteur, mais bon, il y a une vraie vie, là. Et est-ce qu'on peut dire que vous aviez dans votre projet de décrire le milieu germano-pratin ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
C'est pas de la sociologie ?
Pas du tout. Enfin, germano-pratin, pas du tout. Faut dire que je sortais, c'est une précision très importante, de 2 livres. Un sur les musiciens classiques et l'autre qui se passe pour une bonne partie dans la Tchécoslovaquie et la Hongrie communiste des années 50. Donc ces 2 livres avaient nécessité mais des kilos et des kilos de docs. J'avais vraiment et je les ai écrits dans une sorte de terreur de l'exactitude, en me demandant mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut exercer la profession d'esthéticienne dans la Slovaquie de 54, parce que en 54 c'est pas la même chose qu'en 55, etc. Donc là j'avais une vraie envie de, connaissant quand même 2-3 trucs sur les milieux de l'édition, pas forcément français. Ça me semble un défaut de très très français de ne s'intéresser qu'à la France. Il se publie des livres ailleurs. et je pense que les milieux se ressemblent tous, quoi. Qu'il y a quelque chose qui conditionne les milieux. Et que ce qui est décrit dans Elisabeth Lima peut rejoindre des choses qui se pratiquent réellement en France, mais aussi en Italie, ou en Allemagne, ou en Espagne, comme on vient de le voir. Donc, ayant souffert de la documentation et de l'exactitude, là, j'ai fait quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une fable que de la sociologie. Ça n'y ressemble pas du tout. Ou même, par moments, ça s'affranchit un petit peu du réalisme pour montrer ce qui sont plutôt des types, comme dirait Balzac.
Et donc, ce que vous définissez... ce que vous définissez comme réussite du livre à l'arrivée, c'est que les 3 personnes qui ont écrit le livre livrent une part d'eux-mêmes dans le livre. C'est ça qui fait son intérêt.
Ils sont partis avec des recettes et avec des idées un peu cyniques sur comment on va faire, sauf que ce n'est pas des gens cyniques. Et moi, qui ne le suis pas non plus, je n'aurais pas pu passer tout un livre avec des gens cyniques qui font un best-seller, j'aurais été en très mauvaise compagnie. Donc finalement, ils se prennent au jeu, et puis de façon pas du tout délibérée, ils commencent à y mettre du leur. En fait, ils se sont répartis les trucs. Il y en a une qui est la plus écrivaine du lot, qui est quand même censée faire le gros de la bête, et la dramaturgie, et les dialogues, etc. L'éditeur, qui est son compagnon et qui connaît aussi les faiblesses littéraires de sa compagne, se charge de faire toute la doc dont je parlais. Parce que quand même, ça raconte l'histoire d'une aviatrice dans les années 20. Il faut un peu mettre le nez dans les moteurs. Ces trucs-là, moi, je les fais un peu quand même pour les besoins du livre, en faisant les choses agréables, comme d'aller lire des biographies d'aviatrices, de regarder un peu les avions, etc. Mais dès que ça devenait technique, et on ne peut pas écrire un bouquin comme ça sans que ça le devienne un peu, là, c'était quand même un petit peu plus pointu, quoi. Donc, le deuxième s'occupe de la doc, et le troisième, c'est un traducteur de poésie polonaise plutôt introverti et timide, qui est censé donner du punch au style, qui est censé introduire des images, qui est censé caser des emblèmes comme ça dans tout ce ciel et toutes ces traversées. Et chacun, d'une part, à son poste, va commencer à se passionner beaucoup plus pour cette chose qui était censée être une blague. Et surtout, et c'est une des choses que raconte ce livre, à part les best-sellers, à part les milieux de l'édition, tout ça, c'est Qu'est-ce que c'est que ce mouvement entre soi et le livre? Qu'est-ce que le livre vient mettre en vous quand vous êtes en train de l'écrire, et qu'est-ce que vous, en retour de balancier, vous donnez au livre, avec cette particularité pour ce livre qu'ils écrivent dans le livre, qu'ils sont trois et ils ont des relations d'amitié, d'amour, et que tout ça va finalement faire une espèce de tourbillon entre eux, où on ne sait plus qui écrit quoi, et que leurs relations, évidemment, vont se teinter de cette aventure commune.
Et donc, plutôt qu'une une analyse sociologique du milieu de l'édition française, c'est plutôt comment j'ai écrit mes deux derniers livres. Et pour bien que je comprenne, je me divise en trois personnes, couple et un homosexuel, pour couvrir tous les éventails possibles, le côté yin et yang de ma personnalité.
Non, alors, un couple et un homosexuel, c'est ce qu'on m'a dit sur Ferrante. Je ne sais pas si c'est vrai, peu importe si c'est vrai. C'est aussi un peu pour ça que c'est là. L'autre truc, c'est que je ne voulais absolument pas d'un triangle amoureux. Donc j'ai bétonné le truc.
Ah oui,
ça c'est de la cuisine. Voilà, de la cuisine honteuse d'écrivain. Je voulais pas de triangle amoureux, mais quand même ils vont être trois, ça va être très serré. Puis j'ai décidé qu'il y avait un couple, parce que ça m'intéressait de regarder les relations de couple avec un bouquin au milieu. Donc il est homosexuel, ce qui éloigne un peu la possibilité du truc. Il est beaucoup plus jeune, ce qui éloigne aussi un peu la possibilité du truc. Et joker, carte maîtresse, il est amoureux. Donc ça va être beaucoup plus dur qu'avec ces trois obstacles pour qu'il y ait un triangle amoureux. Il n'y a pas de triangle amoureux. Par contre, se dessine assez vite, se dessine petit à petit une relation peut-être avec une tonalité filiale entre eux. Sauf qu'il y a un autre truc, c'est que dès que les relations sont un peu particulières et spéciales, on a tendance à les rendre soit malsaines, soit banales, et que là, je pense que ce n'est pas le cas entre trois.
Non, c'est une description, effectivement, d'un poste de travail, en fait, de l'usinage. Et lui, le garçon qui aime la poésie polonaise, celle-là aussi, il y a cette dimension Pologne, l'Est et tout ça. Ce garçon qui aime la poésie polonaise, il nous permet de voir des choses de sa position. C'est-à-dire que lui, il regarde les deux autres et les deux autres ne le regardent pas. Et c'est lui qui décrit l'environnement de la jeune femme, par exemple, les objets, sa façon de faire la cuisine. Enfin, c'est lui qui nous... Lui et nous, dans la position de du spectateur.
Oui, il est à l'extérieur. Mais il va rentrer à l'intérieur, quand même.
Oui, non, il a une vie à lui. Ouais. Enfin, il a sa sensibilité, il a ses propres histoires. Pour revenir à ces best-sellers, je vais penser à un best-seller qui aurait pu être écrit par ChatGPT, c'est L'élégance du hérisson.
Je ne l'ai pas lu, L'élégance du hérisson.
Alors ça, c'était très réussi dans la putasserie.
Et on va avoir des livres écrits par ChatGPT. Hein.
On les a, non. Il disait qu'il y avait dans les livres qu'on conseillait dans la grande presse pour les vacances, cette année, un tiers de livres écrits par ChatGPT.
Quand ils seront... écrit entièrement par ChatGPT, rêve d'éditeur.
Ouais.
Hein, vous imaginez, on se fait plus chier que les auteurs.
Oui, mais ça va peut-être dans le mur. Peut-être qu'il faut le folklore, peut-être qu'il faut l'alcool, peut-être qu'il faut Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Enfin, ça, c'est compliqué.
Est-ce qu'il faut... Non, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut une mystique autour de la figure de l'auteur, hein? Est-ce qu'il faut... Est-ce que le texte seul suffit? Ou est-ce que, justement, il faut inventer quelque chose avec l'auteur qui soit un peu désirable, un peu sexy? Si on dit ça, ça t'a plu, ça a été écrit par une machine, écoute.
Je ne sais pas, mais si c'est... je ne sais pas comment ça m'est arrivé, peut-être que c'est un livre lu qui m'est tombé dessus, mais j'ai la connaissance d'un livre de Joe Dicker. Et il n'y a pas d'auteur. C'est pas Joe Dicker n'existe pas, c'est pas possible.
Si, il y a un mec, c'est Joël.
Oui, Joël Dicker. Mais ça c'est un peu les Dalton, Joe Dicker. Mais c'est inouï, ce qui a rien dedans, c'est absolument extraordinaire. Et donc là, ça...
Alors pourquoi les gens lisent ça avec autant de passion à votre
avis? Bon, alors c'est vraiment le... Oui, c'est une bonne question dans le sens où la question et la réponse ne m'intéresse pas, mais j'aurais pu écrire une série en groupe. Donc j'ai été très impressionné par l'arrivée des séries HBO à la fin des années 90 et Twin Peaks, dont le cinéaste qui vient de mourir. Et ça m'impressionnait beaucoup. Il y a eu un grand moment dans les séries. Et là, je vois bien sur Écoute, par exemple, de Wire, qui a eu un grand succès auprès des intellectuels, tout ça, la description de Détroit.
C'est très, très bien.
Ouais. Et donc là, je vois bien l'enjeu, et c'est l'histoire qui est l'enjeu, et je comprends bien, quoi. Et puis, les co-scénaristes de Sur Écoute, après, on fait d'autres choses, et les gens suivaient ces choses et tout. Mais l'enjeu, c'était... Mais on est d'où dans un pays où on a inventé le cinéma d'auteur. Donc on est à l'inverse de cette problématique hollywoodienne. Et ils ont dû se battre énormément pour faire reconnaître des gens où ce n'était pas du tout évident. Et le cas d'Hitchcock, par exemple, est emblématique. C'était quelqu'un qui travaillait en groupe, un producteur de films, et qui n'était pas. C'est le producteur aux États-Unis qui faisait le film, là, qui avait le final cut et tout.
La série est intéressante à observer dans le sens où là, les auteurs, ou les showrunners, comme on dit, ont quand même un peu pris le pouvoir. Ce qui, à mon avis, explique aussi la qualité des choses.
Oui, mais ils n'ont pas de position, ils sont pas c'est pas des fétiches, c'est pas des auteurs fétiches, c'est pas, on ne s'intéresse pas à leur vie quotidienne, à leurs tics, à leurs histoires d'amour. On leur parle comme à des professionnels, comme à des techniciens. Quand ils viennent, en France, il y a des événements autour des séries, et quand ils viennent, ils sont interrogés sur leur façon de travailler.
Si on parle de littérature, c'est quand même assez dingue de penser que ce sont techniques. C'est des petits témoins comme ça qui survivent. Et là, dans Elisabeth Lima, il y a des petits témoins qui sont des moments de l'histoire d'amour des deux protagonistes, dont on n'a pas donné les noms d'ailleurs, qui s'appellent Dominique et Livia, qui sont en général abrégés en Do pour Dominique et en Liv pour Livia, et qui sont un tellement vieux couple qu'on les appelle familièrement les Dolly. Et ils ont comme ça chez eux des petites choses. Il y a une grosse fraise en plastique que Camille, qui est le troisième larron, regarde... qui lui semble un peu mystérieuse. Elle a une histoire, cette fraise. Il y a une bouilloire en cuivre dans un autre domaine qui a une grande importance. Il y a des petites choses comme ça qui sont des témoins.
À propos de technique, j'ai reçu un garçon qui s'appelle Guillaume Viry, qui a écrit un premier livre sur un oncle à lui qui s'est pendu après la guerre d'Algérie, suite à la guerre d'Algérie. Et qui a adopté un style à la Beckett, et au lieu de l'interroger, nous avons lu son livre, les deux, en direct, pendant une demi-heure, et ça marchait très très bien. Donc on peut effectivement mimétiser une technique. On avait du Beckett, et les premiers Beckett, ceux qui sont très denses, mais qui sont très musicaux, et qui ont été écrits en français. Et donc on n'a pas de problème de traduction pour le rythme. Et le livre de ce monsieur Viry est très très réussi. C'est paru aux éditions Canoë, je ne me souviens plus du titre. Mais donc, il avait la musique, puisqu'on fait référence à la musique. Et vous êtes une lectrice, en fait, de littérature de l'Est, par exemple, et ça doit être très différent de cette littérature française qui souffre quand même d'un fort ancrage dans le 19e siècle. Comme genre, je ne sais pas, je vois un foisonnement, justement, d'objets, de choses beaucoup plus proliférantes, de situations différentes, de textures différentes.
Alors, pour être très fan de ces littératures, pour moi, il y a un monde entre un roman tchèque et un roman hongrois. On parle de choses totalement différentes quand on parle de... Déjà, ce ne serait pas de l'Est. Si vous leur dites de l'Est, ils disent, mais on n'est pas à l'Est, nous, on est en Europe centrale. Ouais. Donc, on n'est pas à l'Est, on est au centre. La Pologne, à la limite, ça peut être à l'Est, mais pas la Hongrie, enfin, qui disent. Et je ferais un monde de différence entre un livre hongrois et un livre tchèque. Les Tchèques ont un humour très particulier. Ils ont un humour pas gay. Ils sont drôles et pas gays.
Mélancoliques.
Ils aiment Ils aiment bien couper la fin avant la fin aussi, ça c'est très très tchèque. La Hongrie, ce serait un mélange de rudesse, de quelque chose de très très rêche et volontiers à l'os, et à la fois c'est très très sophistiqué. Ça on ne sait pas faire en France, mais c'est des héritages. Bien sûr, c'est aussi des héritages peut-être plus polyglottes pour ce qui est de...
Je pense que le plus grand philosophe du XXe siècle, mais pour dans le contexte de la lutte des classes, c'est Lukács, donc un Hongrois. Et nous, on était à la fin de la période marxiste pendant nos études en histoire de l'art, et c'était Antal, l'écrivain Hahn, le fondateur du genre de l'histoire sociale de l'art, et c'est aussi un Hongrois.
Oui, il y a un Antal dans l'IMA qui passe.
Ah oui.
Mais... Par exemple, pour ce qui est des best-sellers et des renommées littéraires, Camille, dans le livre, est donc un traducteur de poésie polonaise, un grand amoureux de la poésie polonaise. Il se trouve que là, en vrai, il y a deux poètes polonais qui ont reçu le prix Nobel de littérature.
Une femme, oui.
Oui, il y a Zimborska, il y a quelques lignes d'elle dans le livre, et il y a Miłosz. Mais qui lit Miłosz et Zimborska, ou qui, parmi les érudits qu'on pourrait croiser ou qu'on pense connaître, a vraiment lu Zimborska ou Miłosz, quoi. C'est-à-dire qu'au top des renommées littéraires, on trouve encore des gens qui ont pas lu.
Oui, donc j'ai reçu une dame polonaise à la maison, et elle me parlait de la Pologne, et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout à la Pologne, à part le cinéma polonais. Qui était très célèbre et qui fonctionnait très très bien. Et je sais qui est Cybulski, j'ai fréquenté une ancienne maîtresse de Cybulski, mais donc il se passait, Vajda évidemment, il se passait, c'est Cybulski jouait dans Cendre et Diamant, il se passait quelque chose, mais je ne connais rien de la littérature polonaise, et je pense à la littérature russe, bien sûr, qui est écrasante, qui est l'équivalent de la littérature française pour un francophone.
Mais ça, c'est des bizarreries de perception aussi, si vous voulez qu'on parle de ces pays. C'est quand même assez dingue. La Tchéquie est un petit pays. On se disait une dernière fois qu'elle a beaucoup de points communs avec la Belgique. La Tchéquie est un petit pays, se vit comme un petit pays. La Hongrie est un petit pays, mais elle se vit encore comme un pays immense, elle n'a pas compris.
C'est 9 millions d'habitants comme les Belges.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Mais la Hongrie est un petit pays, mais elle se vit encore mentalement.
Comme un empire.
Ouais, et comme ayant encore la Transylvanie, la Haute-Hongrie, etc., et comme un grand pays. En revanche, la Pologne, qui est un grand pays, pour des raisons, entre autres russes, mais culturelles aussi, se vit comme un petit pays, ce qu'elle n'est pas. C'est étonnant. Et ça se traduit aussi en littérature. Dans Elisabeth Lima, l'amoureux de la poésie polonaise, il est malheureux parce que lui, il est complètement fan d'un poète qui met plus haut que tout, qui s'appelle Grzegorz Brzęczykiewicz. J'ai eu mis du temps à apprendre à le prononcer, mais alors à écrire, c'est encore plus dingue. Et personne ne veut publier ses traductions de Grzegorz Brzęczykiewicz. Je crois que je le prononce mal d'ailleurs, parce que le nom est trop long et des éditeurs, même des auditeurs, des éditeurs un peu pointus, lui disent non, mais on ne peut pas publier un mec qui a un nom pareil. Les gens ne vont jamais se rappeler. C'est pas vendeur.
Donc je vais vous lire rapidement la 4 de couverture pour que vous compreniez quand même de quoi on parle. Des flancs aux anchois, une épaule d'agneau et un entremets nougat basilic sont au menu quand Livia et Dominique, une écrivaine et un éditeur, reçoivent à déjeuner leur ami Camille, traducteur de poésie polonaise. Mais l'humeur est maussade en ce lendemain de remise de prix littéraire, car pour une fois, ils estiment que le livre récompensé ne valait pas tant d'honneur. C'est alors que surgit une idée dans l'esprit de Do, écrire ensemble un best-seller. Peu à peu, les trois convives se prennent au jeu, commencent à imaginer des personnages, une intrigue, et décident de dissimuler leur identité sous un pseudonyme. Débute alors l'écriture d'un roman à six mains, qui va devenir bien plus qu'un simple divertissement. Bientôt, le pari d'un déjeuner arrosé se transforme en une aventure qui aura des répercussions inattendues pour chacun des auteurs clandestins. Portée par une étourdissante verve narrative, Elisabeth Lima nous fait pénétrer dans l'atelier de fabrication des romans et nous raconte l'histoire à la fois drôle et émouvante de trois amis à la croisée des chemins. C'est amusant parce qu'on ne parle jamais de roman dans La vie est un roman, donc il faut en profiter abondamment.
Oui, là c'est coup double, c'est un roman sur des gens qui écrivent un roman.
Et est-ce que vous avez lu le livre de Arnaud Vivian sur les prix littéraires?
Non, je ne l'ai pas lu, il est bien.
Il est dans le coup, quoi, Arnaud. C'est marrant parce qu'en même temps, sa situation est compliquée toujours. Mais il avait défendu Contat quand il s'appelle le chanteur de Noir Désir là, qui a tué sa femme. Donc, Contat.
Oui.
Et donc, il était un peu puni. Ah. Mais il est dans le masque et la plume.
D'accord.
Donc, il parle de l'intérieur. Donc, et il y a une foultitude de prix littéraires. Enfin, bah, c'est absolument inouï.
Mais il y a une foultitude de prix littéraires aussi parce que ça permet à des auteurs, concrètement, de vivre financièrement.
Vous avez touché deux prix, d'ailleurs, pour votre dernier livre. Au moins deux.
Pour le dernier, j'en ai eu qu'un. Mais qui était un super prix, le prix Charles Houlmont de la Fondation de France, qui était un prix formidable à recevoir. Et moi et mon livre, on était bien contents de l'avoir. Et voilà, c'est aussi une façon par la bande de rétribuer les auteurs, les prix. Hein. C'est assez dingue.
Il y a un milieu, quoi. Donc, et là, puisqu'on parlait de ChatGPT... bon, moi, je fréquentais la présidente du syndicat des correcteurs, la CGT. Mm-hmm. Et donc, ces gens ont disparu. C'est très dur, quoi.
Ah non, et ça va l'être de plus en plus. Hein. Là, on voit, parce qu'une autre chose qui faisait vivre les auteurs, c'était les résidences, les festivals, etc. Et ils sont tous...
ah oui, donc...
Là, ils sont tous en réduction.
Notre radio, notre longueur d'onde a perdu ses subventions régionales.
Ben, dites-en peut-être un mot...
Radicalement.
Dites-en peut-être un mot, si vous... Non. Non, j'ai cherché un passage dans le livre parce que quand je parle des cuisines de l'édition, il y a des trucs qui sont réalistes quand même. Et il y avait une chose que j'avais découvert quand même en faisant un peu de préparation pour ce livre, qui est que par exemple, on se dit, bah, si une maison d'édition, une petite maison d'édition a un grand succès, bah, ça peut faire sa fortune, etc. Et j'ai découvert que ce n'était pas forcément le cas. Donc, je lis ce petit extrait parce que...
Allez-y, oui, bien
sûr. Je trouve que ça...
Vous êtes chez vous, hein. Oh. Faites comme vous le sentez.
Alors, elle est en train de lire un article dans une revue littéraire et elle a tiré par quelque chose. On y parlait des éditions Petit Bain où Liv avait publié ses premiers recueils. 6 mois plus tôt, avec sa discrétion habituelle, la maison avait sorti un livre destiné aux 4-6 ans. Le petit lapin qui allait dans l'autre sens. Il s'agissait de parler de l'homosexualité aux plus jeunes grâce à une histoire toute simple et adoucie encore par le trait délicat du dessin. Cela finissait bien et surtout sans morale. Le petit lapin, pas si différent des autres, y obtenait seulement le droit de vivre sa vie de lapin comme il l'entendait. La justesse de l'ouvrage, sa fantaisie, son absence de jugement ou de mièvrerie avaient touché le cœur d'un chroniqueur radio qui enchanta les louanges à 1 heure matinale de grande écoute. Son billet provoqua un tel engouement que le modeste tirage fut épuisé bien vite, on se frotta les mains chez Petit Bain, on fit réimprimer tout plein de nouveaux lapins. À peine rassasié, la demande repartit crescendo quand, une semaine plus tard, sur une antenne rivale, un homme politique s'indigna, en tant que papa, que ce livre dégoûtant soit fourgué à des mômes. S'en suivit un tollé qui dura bien 2 semaines, on réimprima encore avec jubilation, prouvant par ce mouvement que l'auteur avait raison, le petit lapin homosexuel était tout à fait capable de se reproduire aussi vite que les autres lapins, et même plus vite encore. Mais bientôt, à l'euphorie, succéda le chaos. En un mois, la timide maison d'édition fut débordée. Incapable d'endiguer les flux, elle engagea des frais, engagea une salariée, à mi-temps, puis temps plein, dans le but exclusif de gérer Petit Lapin. Tous les autres livres à paraître ce printemps-là furent bousculés, maltraités, retardés, tandis que la maison se mettait à chavirer, plombée par son triomphe écroulant sous le courrier. Appâtée par le succès, des auteurs par centaines soumettaient d'autres lapins, mais aussi des vaches daltoniennes, de petites hyènes au cœur tendre ou des girafes atteintes de vitiligo. À quelque distance de la ligne éditoriale arrivaient aussi des flopées de romans gay-friendly, plus ou moins épicés, dont les refus polis valaient en retour des lettres courroucées, voire pas friendly du tout, s'amoncelant jusqu'à rejoindre le tas de lettres d'insultes qui, pour d'autres raisons, arrivaient elles aussi chaque jour en quantité. Puisqu'on pouvait redouter, arriva. Les libraires renvoyèrent bientôt des cartons par centaines. Trop vite, trop fort, trop soudain, on avait mal géré, les exemplaires avaient pullulé et la demande tarie bien plus tôt qu'escomptée. On destinait maintenant l'excès de Lapinou au pilon abattoir. Dans la frénésie de l'opération, les paisibles éditions Petit Bain avaient perdu bien plus d'argent qu'elles n'en avaient gagné. Elles eurent bientôt du mal à honorer les charges, les salaires, et puis de mal en pis. Victime de son succès, Petit Bain avait coulé, on cherchait un repreneur, avec un peu de chance.
Merci, oui. Ouais. Et donc, je pense que votre livre décrit effectivement un moment historique. Ça me fait penser, bon, juste deux choses. J'ai un copain dont la vie a changé, parce que Solaire, ça parlait de lui. Il faisait une colonne dans le journal du dimanche. Il a fait 10 lignes élogieuses sur mon ami, et la vie de mon ami a changé.
En quoi elle a changé ?
Il est devenu un auteur connu. Grâce à ces 10 lignes de Solaire.
Alors vous ne voulez pas dire son nom, c'est un auteur connu.
Frédéric Pajac. Et c'était au PUF, aux Presses universitaires de France. Ce n'est pas évident du tout. Et donc après, il y avait deux piliers dans cette collection. C'était lui et Comte Sponville. Donc on est vraiment là dans la réalité. Et l'autre chose qui est absolument horrible, c'est les tarifs de la Poste. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui vient de me faire un livre impromptu. J'en parlerai la semaine prochaine. Cette semaine, et qui m'a fait aller chercher ce qui m'a envoyé 3 exemplaires, mais des brouillons, enfin des machins comme ça, au Franprix, assez loin de chez moi, avec un chiffre à 6 numéros. Et donc j'étais au Franprix dimanche matin, et j'ai dit mon chiffre, et on m'a donné mon colis. Parce qu'on ne peut plus envoyer par la poste. Et avec l'étranger, c'est encore pire. Donc là, c'est la ruine. Hein. C'est vraiment très, très mauvais pour les petits éditeurs. C'est une punition grave, je pense.
Bon, on peut se réjouir à part ça que des gens continuent à écrire, à éditer et à lire.
Ouais. Non, alors ça, c'est... On peut imaginer effectivement... Et donc, oui, donc aussi, j'ai des enfants qui commencent à être grands, qui ont 26 et 24 ans, et qui n'ont pas, là, quand même, qui ont des rapports au livre qui ne ressemblent en rien au rapport au livre que nous avons eu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai beaucoup souffert avec l'arrivée des boîtes à livres, c'est quelque chose qui m'a fait très très mal.
Pourquoi ?
Parce que ça démonétisait la chose qui était au centre de ma vie. Ça la rendait tout à fait... C'est, pour moi, c'est une espèce de poubelle dressée.
Oh non.
Je déteste. Et donc là, j'étais à Italie 2, dimanche aussi, ou un de ces jours, et il y a Ikea qui s'est installé. C'était un gros événement. Il y avait des gens à 6h du matin qui faisaient la file. Et ils ont mis une boîte à livres devant Ikea, et c'est vraiment dégueulasse. Ils ont mis des livres dégueulasses dans ces boîtes à livres. C'est récent, ça date.
Mais on peut les regarder avec espoir. On peut se dire, ah, c'est enfin là que je vais trouver ce livre épuisé que je cherchais partout et que je ne trouvais nulle part.
Et donc, les gibères sont fermés. Le gibère à Saint-Denis, là, c'était sur Facebook là, ces jours-ci. Là, le gibère à Saint-Denis est devenu un magasin de vêtements. On souffre avec le livre et on était dedans quand même. Je veux dire qu'on a... Pour moi, le livre était au centre de ma vie, je n'hésiterais pas à le dire, je ne vivais pas et pour le livre.
Mais est-ce que c'est forcément à l'imparfait, ça ? Oui, il continue d'être au centre de ma vie, c'est le livre.
Voilà, c'est ce que vous allez défendre dans sur toutes les ondes et dans tous les journaux. Vous allez pouvoir discuter, c'est le sujet de votre livre, en fait, aussi. C'est... l'état de l'édition, l'état des ventes.
C'est aussi un livre sur des gens qui aiment les livres. C'est truffé de citations partout.
Alors, il n'y a aucun recul. Tout le monde est d'accord. Personne ne doute de l'existence du livre dans ce livre, sur le livre. Non, mais ça on est à une période charnière, quand même, je pense, incontestablement.
Bah, là, il y a un truc qui m'a troublée. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais La Splendeur des Amberson d'Orson Welles est un film connu comme un grand film malade parce qu'il en manque 43 minutes qui ont été sabrées par le studio et ils viennent de les reconstituer par intelligence artificielle.
Donc nous étions dans La vie est un roman, je parlais avec Lola Grubert d'Elisabeth Lima, publié sous édition Bourgois, recommandé par... Aligre FM 93.1. À la semaine prochaine et merci à Didier qui était derrière la vitre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous écoutez Aligre FM 93.1.